Chapitre 9. Le haut-parleur égrène le compte à rebours.
4, 3, 2, 1, décollage.
La fusée s'élève dans une immense gerbe de fumée jaune et blanc. La poussée gigantesque plaque l'unique passagère sur son siège. Pendant les 8 premières minutes, l'engin s'arrache du sol terrestre. L'habitacle vibre. Alice serre les dents. La peau de son visage est étirée par l'accélération. Tandis que la fusée poursuit sa trajectoire, la biologiste pense aux semaines qui viennent de s'écouler. Après la conférence de presse au ministère de la Recherche, son agression et la visite au Muséum d'Histoire Naturelle, Benjamin Wells s'est, comme il l'avait promis, organisé pour l'aider à continuer à travailler dans un lieu plus sûr, quoiqu'un peu éloigné. Il a, dans un premier temps, fait nettoyer son laboratoire secret. Résignée, Alice a préféré ne pas assister à l'euthanasie d'Eugène, de Marie-Antoinette et de Joséphine. Benjamin lui a garanti que les trois hybrides n'avaient pas souffert et que leur corps avait été incinéré pour que toute analyse soit impossible. Puis il a lancé une campagne de dénigrement sur Diego Martinez en martelant que ce dernier n'avait fait qu'extrapoler à partir de ce qu'il avait lu dans le dossier Métamorphosis. Wells a maintenu une seule et unique version. Ce n'était qu'un projet parmi des centaines d'autres et il n'avait jamais été réalisé. La population s'est lassée et le nom du journaliste a désormais rejoint ceux des complotistes et autres lanceurs d'alerte illuminés qui peuplent la blogosphère. Il a malgré tout sorti un livre pour raconter son expérience et a tenté d'en faire la promotion dans les médias. Mais chaque fois, on lui a rétorqué « Où sont les preuves ?» Et chaque fois, il n'a eu qu'une seule réponse. « Je vous jure que je l'ai vu. » Ensuite, Alice a fait ses bagages et discrètement pris un avion pour rejoindre l'Amérique du Sud, plus précisément la Guyane française. Benjamin Wells a profité de son statut de ministre de la Recherche pour l'installer au centre spatial de Kourou, où elle a reçu une formation accélérée d'astronaute. Les techniques de préparation et d'apprentissage ont beaucoup évolué, et en 3 mois, elle a appris tout ce qu'elle devait savoir pour intégrer un programme de vol habité. Par chance, sa pratique quotidienne du sport lui a donné un cœur et une musculature de sportive qui l'ont aidée à passer les différentes étapes de sélection médicale sans trop de difficultés. La fusée continue de monter. Alice ne peut s'empêcher de penser à Eugène, à Marie-Antoinette et à Joséphine. Ils n'ont pas demandé à exister et ils ont été sacrifiés. Comment les avait-il appelés déjà ? Ah oui, mais brouillon. Les pauvres, ils n'ont même pas eu de sépulture. Ils sont des martyrs de la science. Les premiers à payer de leur vie les avancées de mes expériences. Elle ressent tout à coup une douleur fulgurante au ventre. « Oh non, pas ça, pas maintenant !» Elle grimace. Sa maladie. Elle ne la laissera donc jamais souffler. Elle s'immiscera à la moindre occasion, ne lui laissera jamais aucun répit. Alice se rappelle très bien comment cela a commencé. C'est arrivé la première fois qu'elle a eu ses règles. La douleur à l'époque lui avait fait l'effet d'un volcan dans le ventre. Elle avait demandé à sa mère si c'était normal que ce soit aussi douloureux, et celle-ci lui avait répondu par l'affirmative. Ensuite, le supplice n'avait fait qu'empirer. Tout le monde dans son entourage féminin lui soutenait pourtant que ça allait passer. Une amie de sa grand-mère lui avait même dit « C'est la punition d'Ève pour avoir mangé la pomme. Les femmes accoucheront dans la douleur et en plus, même quand elles n'accoucheront pas, elles auront très mal. » Sa mère avait quand même décidé un jour de l'emmener consulter. Et le médecin avait lâché le mot « endométriose ». Il lui avait expliqué que c'était une maladie gynécologique inflammatoire relativement banale puisqu'elle touchait 10% des femmes dans le monde. Il avait ajouté que beaucoup d'entre elles vivaient avec ce problème de la puberté à la ménopause sans que ce soit trop difficile à gérer. Il lui avait même signalé, comme pour la consoler, que Marilyn Monroe souffrait elle aussi de cette maladie et que cela ne l'avait pas empêchée de devenir la femme la plus admirée du monde. Quel Quelle phrase débile! Marilyn Monroe était dépressive et a eu une fin dramatique. Une fois la consultation terminée, Alice, encore adolescente, s'était dit « Je vais souffrir tout le reste de ma vie. Je n'aurai pas une sexualité normale. Je n'aurai probablement pas d'enfant. » Dès lors, elle est devenue plus solitaire. La douleur, insupportable et cyclique, a grandement participé à ce sentiment de solitude et à son besoin d'isolement. Car Alice a su très vite qu'elle ne pourrait parler de son problème à personne. Le mot « maladie » ne vient-il pas de ce qu'on a du mal à dire? Cependant, elle ne voulait pas subir l'endométriose sans tenter de trouver une échappatoire. Alors, elle a cherché dans la science et a trouvé une explication possible. Une théorie avançait en effet que ce trouble était provoqué par une certaine séquence dans le génome, un reste d'ADN de l'Homo neanderthalensis. Car jadis, les sapiens et les hommes de Néandertal pouvaient se mettre en couple, faire l'amour et avoir des enfants hybrides moitié sapiens, moitié Néandertal. Puis est venue une nouvelle période où les deux espèces n'arrivaient plus à se reproduire ensemble. Enfin, les Néandertaliens ont disparu. Cependant, il reste encore de nos jours en moyenne 1,8% de gènes d'Homo neanderthalensis dans le code génétique des Homo sapiens. Pour vérifier cette hypothèse, Alice a fait analyser son génome. Elle a ainsi appris qu'il y avait dans son ADN personnel non pas 1,8, mais 2,7% de séquences issues d'ancêtres néandertaliens. Voici l'origine de mon problème. Mes très lointains ancêtres sapiens ont un peu trop fait l'amour avec des néandertaliens. C'est là que se trouve la source de ma douleur, et c'est là que je vais trouver la clé. Apprivoiser sa maladie a dès lors été l'un des objectifs de sa vie. De quelque chose de mauvais peut sortir quelque chose de bon. Elle a mené ses premières recherches autour des maladies causées par les restes de séquences génétiques des anciennes autres humanités pour comprendre comment des morceaux de programmation génétique d'espèces humaines disparues influaient sur l'humain moderne. Elle visualisait ce phénomène comme le bug d'un vieux logiciel qui perturbait le fonctionnement du nouveau. Motivée par l'envie de s'en sortir, elle a obtenu des résultats à tel point qu'elle est devenue l'une des jeunes scientifiques les plus prometteuses de sa génération et a décroché une bourse du CNRS pour mener sa première thèse sur ce thème du lien entre l'endométriose et les restes génétiques des anciennes autres humanités. Elle a même reçu pour son travail une distinction internationale prestigieuse. Mais elle se moquait bien des médailles et des honneurs. Ce qu'elle voulait, c'était ne plus avoir mal et trouver le moyen de soigner les 200 millions de femmes qui, dans le monde, souffrent elles aussi de ce terrible mal. Toute ma vie a été orientée par la douleur. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, le feu se calme soudain dans ses entrailles. Elle prend une grande inspiration. Ça y est, c'est passé. Comme un orage. Alice Kammerer regarde par le hublot de la fusée. Et maintenant, je fends l'atmosphère à pleine vitesse. Elle se souvient. C'est son père qui lui a transmis sa passion. Voler. Elle se rappelle le jour où elle a découvert cette sensation fantastique. Elle devait avoir 16 ans. Un dimanche, au cours d'une sortie entre copains, on lui a attaché un élastique aux chevilles et elle s'est élancée du haut d'un pont dans le vide. La sensation a été forte, mais trop rapide. Cependant, elle s'est aperçue que, après cette action, elle a moins pensé à sa maladie. Elle a donc reproduit l'expérience. Voler me fait oublier mes problèmes terre-à-terre organiques. Voler est un remède universel qui guérit temporairement les plaies du corps et de l'âme. Elle s'est aussi appliquée à observer tout ce qui vole dans la nature, libellules, papillons, oiseaux et bien sûr, chauves-souris. Pendant les vacances, tôt le matin, elle partait avec un appareil photo à longue focale et un micro directionnel pour photographier les animaux volants et enregistrer leurs chants. Puis, Alice a voulu passer à un niveau d'expérience supérieur. Elle a donc tenté avec son père le parachutisme. Elle garde un souvenir ému de son saut au-dessus des pyramides du plateau de Gizeh, près du Caire. une minute trente de chute libre. Une expérience magique au-dessus d'un lieu magique. Mais en chute libre, la sensation de vol était troublée par le vacarme du vent. Le bruit ne s'arrêtait qu'au moment où, après avoir ouvert le parachute, sa descente était ralentie puis stabilisée. Elle s'est dit alors, c'est en se plaçant en hauteur à distance d'une situation qu'on a le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe au ras du sol. Elle a continué de chercher une façon de voler moins bruyante. Son père l'a donc initiée au parapente un jour au-dessus de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Elle s'était lancée avec lui du haut d'une colline surplombant la baie de Saint-Leu. Elle a pu connaître la sensation inouïe de glisser dans le ciel en silence. Elle a même pu constater que les paysans-queues, étonnants oiseaux locaux, venaient près d'elle pour la saluer de leur piaillement. « Bonjour les oiseaux, merci de m'accueillir dans votre dimension aérienne. » Elle a tenté d'imiter leurs cris et il lui a semblé qu'un dialogue s'installait. Mais un trou d'air l'a fait descendre d'un coup et elle a craint un instant de s'écraser au sol. Après cette expérience déroutante, Alice a décidé de ne voler que sur des appareils aux structures suffisamment solides pour compenser les trous d'air. Elle a d'abord appris à piloter des ULM dans les Alpes, mais les appareils étaient trop bruyants pour elle. Comme si je m'étais accroché un moteur de tondeuse à gazon dans le dos. Elle a ensuite opté pour le planeur, mais là, elle s'est sentie à l'étroit dans l'habitacle de plastique secoué de vibrations très sonores. Elle a testé les petits avions, les hélicoptères. Et même si ces parenthèses lui permettaient quelques jours de répit vis-à-vis de la douleur, elle ne lui donnait jamais la sensation de voler comme un oiseau. Et puis, son père a eu un accident. Une chute de parapente, durant laquelle le parachute ventral de secours ne s'est pas ouvert. Il est mort sur le coup. Comme Icare, qui, à force de vouloir monter plus haut, a fini par se brûler les ailes et tomber. Du jour au lendemain, Alice a cessé ses expériences aériennes. Elle n'a jamais imaginé qu'un jour, elle testerait l'ultime moyen de voler, la fusée. Aucun oiseau ne peut rivaliser avec une fusée, ni en vitesse, ni en puissance, ni en altitude. Une sonnerie retentit dans l'habitacle en même temps qu'une lumière jaune clignote. C'est le signal que le premier étage de la fusée a été largué. L'accélération se fait plus forte et la montée continue. Alice plonge de nouveau dans ses pensées. Sa passion pour le vol a été un guide aussi bien personnel que professionnel. À la question « Comment créer un être humain volant ?», la jeune femme aux yeux verts a tout de suite su que la solution viendrait de la programmation génétique. Pour elle, il était évident qu'utiliser des ailes artificielles ou des moteurs à essence était inutile. Il fallait concevoir un être complet équipé, dès sa naissance, de ces merveilleux appendices naturels que sont les ailes. Elle a donc rédigé sa deuxième thèse sur ce thème. Comment fabriquer par génie génétique un humain hybride volant ? Ce travail lui a permis d'être engagée comme chercheuse au Muséum d'histoire naturelle. Elle y a rencontré les plus éminents ornithologues et a commencé à concevoir un projet plus ambitieux. Elle savait que, pour mener son projet à bien, il lui faudrait un soutien financier. Elle a alors pris son courage à deux mains et a contacté un ancien ami de lycée et d'université, Benjamin Wells, devenu entre-temps ministre de la Recherche. Elle lui a présenté son idée de croiser ses travaux de recherche sur la génétique avec ceux sur l'invention d'un humain volant. Et c'est lui qui a suggéré d'étendre son idée d'humain augmenté à d'autres éléments que l'air. Ainsi est né le projet Métamorphosis, dont le sous-titre est « Tentative d'invention de trois nouvelles humanités hybrides pour suppléer à l'humanité actuelle en cas de menace de disparition ». Alors que la fusée continue de s'éloigner de la Terre, Alice a l'idée de mettre un peu de musique. Le module de l'appareil dans lequel elle a pris place est équipé d'un lecteur audio et son casque d'écouteurs intégrés. Elle a même pu télécharger des morceaux et constituer sa propre playlist. Elle lance « L'apprenti sorcier », un poème symphonique de Paul Dukas. Par le hublot de la fusée, Alice voit sa planète natale de haut. Elle jette un coup d'œil à sa montre. Il lui reste 23 heures de voyage. C'est le temps nécessaire pour atteindre de manière optimale et à la bonne vitesse l'orbite de l'ISS, la station spatiale internationale qui se maintient à 410 km d'altitude au-dessus de la surface terrestre. Elle se remémore les aboutissements auxquels elle est parvenue ces dernières années. Grâce au soutien du ministre Benjamin Wells, elle a réussi à faire naître en secret les trois singes hybrides. Jusqu'à ce que ce maudit journaliste vienne fureter dans mon laboratoire. Et maintenant, elle connaît l'exil. L'exil de sa propre planète. Nouvelle sonnerie. La lumière jaune clignote une fois de plus. Dans un bruit assourdissant, la capsule se détache du dernier étage de la fusée et se met en vol orbital. Soudain, il n'y a plus de vacarme ni de vibration. Tout est calme. L'indicateur de gravité, une figurine en peluche représentant Isaac Newton, se met à flotter au bout de la ficelle à laquelle il est accroché. Et voilà, fin de la pesanteur. Une blague de son père lui revient en mémoire. Isaac Newton a découvert la gravité en 1687. Avant cette date, les gens prenaient tout à la rigolade. Elle observe la Terre par le hublot. Finalement, Benjamin Wells m'a peut-être sauvé la vie. Il m'a offert une formation d'astronaute aux frais de l'État. Et je vais pouvoir poursuivre mes expériences dans un sanctuaire où je suis certaine d'être tranquille pour travailler. Loin de l'exciter, la musique de l'apprenti sorcier, pourtant de plus en plus expressive et rythmée, la berce. Et Alice s'endort, en rêvant qu'elle flotte au milieu des étoiles en compagnie d'Eugène, de Marie-Antoinette et de Joséphine.